On a terminé le cours sur le gouvernement divin au point de vue philosophique. Et au point de vue philosophique, on achève ce gouvernement divin sur la personne humaine ordonnée à voir Dieu. Qui montre que cette philosophie de la personne demeure incomplète. Parce que nous ne savons pas ce que peut être cette vision naturelle de Dieu. Toujours du côté de la finalité qu'on doit regarder le lien entre nature et surnature. Scolastiquement, on l'a regardé beaucoup trop uniquement du côté formel. Alors, du côté de la finalité, il me semble que c'est très important de comprendre que la finalité du côté de la personne et du côté naturel fait que j'affirme que ma fin ne peut être que la contemplation de Dieu, la contemplation du Créateur, la contemplation de celui qui a créé mon âme. Mais cette contemplation de Dieu naturelle reste très imparfaite. Elle est très grande comme affirmation de Dieu Père, mais elle reste très imparfaite. Je ne peux pas savoir le comment. Et ce comment n'a jamais existé du reste. Il faut que j'ajoute ça tout de suite. L'ordre naturel, purement naturel, n'a jamais existé. Alors, c'est normal que le terme, que ce soit au terme où je m'aperçois que je reste sur ma faim, je ne peux rien dire. Je vois donc l'imperfection radicale de la philosophie par rapport à ma personne humaine. Puisque ma finalité demeure quant à la manière d'expliquer ce qu'elle est dans l'indétermination. Je ne peux pas déterminer. Ça montre combien le point de vue surnaturel Jésus est purement gratuite, mais combien ma nature et ma personne humaine ne sont parfaitement eux-mêmes grâce à l'ordre divin, surnaturel. C'est l'ordre surnaturel qui, par la foi, me montre l'espérance me montre ce que sera cette vision béatifique, la contemplation de Dieu lui-même dans son mystère trine, dans la Trinité, la contemplation du Père, non seulement Père de ma vie divine, mais Père de la vie éternelle. Je crois que c'est important de montrer cet inachèvement philosophique au point de vue finalité. Je demeure dans l'imperfection. Et c'est particulièrement grave pour la finalité. Je ne peux pas préciser quelle est ma fin personnelle. Je peux dire, ça ne peut être que la contemplation de Dieu, mais comment, je n'en sais rien. Et ce n'est que l'ordre surnaturel qui explique le comment. Vu par la finalité, vous voyez, il y a comme un appel impératif de ma personne humaine à un ordre nouveau, surnaturel. Et c'est particulièrement à l'égard de la finalité, à l'égard de la vision béatifique, que je vois cela. Et on est habitué toujours de revenir à la grâce. Alors, on précise plus loin bien l'ordre de la nature à la grâce. Alors que, si on le voit du côté de la finalité, on voit beaucoup mieux que l'ordre naturel, laissé à lui-même, est inachevé. Et il ne peut être achevé que par l'ordre surnaturel. Et je vois bien, en prenant le point de vue de la finalité, que seule la personne humaine, comme personne, peut être finalisée, et non pas la nature. Je n'en dis pas plus au point de vue philosophique. Je peux, à partir de là, comprendre ce que doit être le jugement de sagesse. Et comprendre ce jugement de sagesse, c'est sans doute ce qu'il y a de plus parfait en philosophie. À réaliser. Je ne peux pas aller plus loin. Pour bien comprendre ce jugement de sagesse, revenons au premier jugement philosophique. Le premier jugement philosophique, c'est ceci est. C'est reconnaître que l'existence de la réalité mesure mon intelligence. Mon intelligence est mesurée par n'importe quelle réalité existante. N'importe quelle réalité existante a par rapport à mon intelligence, une indépendance absolue qui lui permet de mesurer mon intelligence. C'est ce qui se passe dans le jugement d'existence. Quand vous dites ceci est, quand vous dites ceci est, vous reconnaissez que le ceci en tant qu'il est, et mesure dans mon intelligence. Et donc, à partir de là, vous comprenez ce qu'est la vérité. Et si vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est justement que mon intelligence accepte d'être mesuré par ceci est. Ce que je dis est conforme à la réalité. Oh, ceci est. Et donc, dès le point de départ philosophique, dès le point de départ de ma métaphysique, une connaissance sui generis de l'intelligence qui a son indépendance et sa dépendance à l'égard de ce qui est. C'est très riche de voir cela. Quand vous dites ceci est, à la fois vous affirmez la grandeur de l'intelligence qui ne peut dépendre que de ce qui existe. Elle ne peut être que dépendance de ce qui existe. Et en même temps, mon intelligence commence à s'enrichir par ce qui existe. Et elle ne s'enrichit que par ce qui existe. Tout ce qui n'est pas de l'ordre existentiel, tout ce qui n'existe pas, n'est pas une richesse pour mon intelligence. N'enrichit pas mon intelligence. Ça, c'est farouche de comprendre ça. Et c'est très important, parce que ça montre que le virtuel n'enrichit pas l'intelligence. Alors, vous voyez, la catastrophe. Les mathématiques n'enrichissent pas l'intelligence. Dire ça aujourd'hui, on reçoit des coups de balle, donc. Et pourtant, je suis bien obligé de l'admettre. Dès que je pose le jugement d'existence. C'est pour ça que c'est si important, ce jugement d'existence. Il faut y revenir tout le temps pour que, pour nous, ce soit de cette importance-là. C'est pas seulement « Ah, on a dit ça ». Non, 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 non. L'intelligence veut l'évidence. Elle supporte très mal l'autorité. Et bien souvent, nous supportons très mal l'autorité parce que nous n'avons pas été jusqu'au bout de l'indépendance de l'intelligence. Alors, on est en retard. Quelque chose qui reste, qui n'a pas été avalé. Et c'est pour ça que le jugement d'existence est quelque chose de si importance, parce qu'il me fait, il me permet de découvrir combien l'intelligence est source d'indépendance, combien mon intelligence est radicalement dépendante. Donc, mon intelligence n'est pas première. Et c'est beau de découvrir ça. C'est intéressant de découvrir ça. Parce que toutes les philosophies qui commencent par l'intelligence et qui veulent faire du cogito, le cogito, l'absolu, sont erronées. Ils sont bâtis sur une erreur, et une grosse erreur, l'erreur fondamentale. C'est pour ça que ce jugement d'existence a quelque chose de si important. Il me montre comment l'intelligence humaine est source de toute indépendance et comment mon intelligence humaine est ce qui explique toute dépendance. Mon intelligence humaine est dépendante de ce qui est, et mon intelligence humaine est capable de se nourrir d'une manière magistrale et première de ce qui est, en tant qu'il est. Je ne me nourris que de ce qui est irréductible à moi-même. Ce qui n'est pas réductible, tout ce qui est réductible à moi-même ne me nourrit pas, ne m'enrichit pas. Tandis que ce qui est irréductible à moi-même, le connaître, c'est m'enrichir. Or, qu'est-ce qui est irréductible à moi-même? Ce qui est. C'est la seule chose, parce que tout ce qui est de l'ordre quiditatif n'est pas irréductible à moi-même, je le connais. Je connais homme, et tel homme est irréductible. L'homme comme tel, je le connais. Cet homme particulier, il est irréductible. Donc, il m'enrichit. Tandis que homme ne m'enrichit pas. Ça, vous pouvez le comprendre. Hein. Et c'est le jugement d'existence qui vous permet de dire ça. Et qui est donc quelque chose d'irréductible pour mon intelligence, et par le fait même quelque chose qui nourrit mon intelligence. Je reviens toujours au jugement d'existence. C'est très important de voir que toute ma philosophie, toute ma métaphysique est dépendante de ce jugement d'existence. Ce qui est. Ce qui est demeure pour moi toujours quelque chose qui me mesure. Quelque chose qui m'échappe. Et que pourtant je recherche. Ce qui est à quelque chose qui m'échappe. Son être irréductible, unique. Et je peux cependant saisir tout ce qu'il est. son intelligibilité. Et je fais tout de suite cette distinction très importante, l'intelligibilité de la chose et ce qui est. L'intelligibilité de la réalité n'est pas mesure de ma connaissance. Ce qui existe est mesure de mon intelligence. Donc, ce premier jugement, ceci est, au point de vue philosophique, est capital. Et je reviens toujours à cela. À l'autre extrémité, toute ma métaphysique est ordonnée à affirmer il y a un être premier. Il y a existe avant moi et dont je dépends. Puisque j'ai reconnu dans ce qui est quelque chose qui est indépendant de moi. Quelque chose qui me mesure, qui mesure mon activité intellectuelle. Et j'aboutis au terme de ma métaphysique à affirmer l'existence de Dieu, l'existence de l'être premier qu'on appelle Dieu. L'existence d'un être premier, de l'être premier qu'on appelle Dieu. J'ai donc ces deux affirmations, l'une au point de départ et l'autre au terme, qui me mettent en présence de quelque chose qui est antérieur à moi, antérieur à ma connaissance. Et l'affirmation de Dieu permet d'affirmer qu'il existe un être non seulement antérieur à ma connaissance, mais qu'il existe un être antérieur à mon existence. C'est très important de bien voir la différence de ces deux êtres. Et toute ma recherche métaphysique, elle est comprise entre ces deux extrêmes. Je vois par là tout de suite la différence de ce qu'est la métaphysique ou de ce qu'est l'histoire. L'histoire est comprise elle aussi dans les deux extrémités d'une personne humaine. D'une personne humaine ou de notre monde, ou de notre petit village. L'existence est toujours l'existence que j'atteins est toujours première. Mais comment j'atteins cette existence du passé? Comment j'atteins cette existence du passé? Est-ce que je l'atteins directement? Non. Je l'atteins par l'intermédiaire d'un document. S'il n'y a pas de document, ça m'arrête. C'est pour ça, quand vous cherchez l'histoire d'un petit village, vous essayez de trouver la première pierre de la première maison. Vous savez que c'est la première pierre de la première maison si vous êtes en face d'un document. Autrement, vous supposez. Mais toute votre connaissance historique repose sur un document. C'est très important, ça. Ne repose pas directement sur ce qui est. Parce que ce qui est, pour l'historien, n'est plus. C'est vrai. Le Moyen-Âge n'est plus pour moi. Qu'est-ce qui reste du Moyen-Âge ? Des documents, de fameux documents, des églises, des cathédrales, merveilleux documents. Ordinairement, plus une seule maison, il n'y a que la maison de Dieu qui reste, hein, curieux. C'est un document. Une cathédrale est un document. Et il peut y avoir des livres, mais il peut y avoir des pierres, hein, comme document. L'avantage des pierres, c'est que elles se taisent. Il n'y a pas d'interprétation. Interpréter l'existence de la cathédrale de Chartres. On ne peut pas avoir trop de fantaisie, parce que la cathédrale de Chartres est là. Alors, est-ce que votre interprétation est conforme à cette réalité ? L'histoire s'appuie sur des documents. C'est très important. Donc l'histoire ne peut pas dépasser les documents. Qu'est-ce qu'un document au point de vue du jugement d'existence ? Au point de vue de mon jugement d'existence, qu'est-ce que la valeur d'un document ? C'est une pierre, c'est un livre, c'est un écrit. Les documents sont très variés. Une pierre taillée, bien taillée, est un document. Une statue est un document. Ça n'a pas poussé tout seul. Il y a une main humaine qui a fait cette statue. Il y a une main humaine qui a écrit ce document. Donc vous faites toujours dans tout document, vous faites appel à une main humaine, une intelligence humaine qui est avant le document. Forcément. Le document n'est pas né comme un grain de blé. Le grain de blé n'est pas un document. Il est, pour l'archéologue qui essaie de voir de quoi on se nourrissait au Moyen-Âge, c'est un document très particulier qui peut m'aider à comprendre la nourriture des personnes du Moyen-Âge. Et au fond, les documents sont extrêmement variés. Mais le document type, c'est toujours quelque chose qui est fait de main humaine. Quelque chose qui n'est pas fait de main humaine n'est pas un document. Un silex vous découvrez, c'est pas un document. Parce que vous allez tout de suite regarder où vous l'avez découvert. Si on peut trouver trace humaine, au fond, il y a toujours trace humaine pour un document, je crois. Je crois que quand il n'y a pas de trace humaine, c'est pas un document. Et un coquillage extraordinaire que vous découvrez. Vous n'avez jamais vu ça. Est-ce que vous allez dire que c'est un document ? Non. Le document, ça fait appel tout de suite à l'histoire. Et au fond, ce que vous travaillez au point de vue histoire, c'est l'action de l'homme sur le monde. L'action de l'homme sur les animaux. L'action du monde sur notre univers. Et c'est ça le document. Donc le document, n'importe quel document, hein, n'est pas directement la réalité existante. C'est la réalité existante œuvrée, manœuvrée, utilisée par l'homme. Il y a toujours l'intervention humaine dans le document, je crois. Toujours. Donc, le document reste lié à l'existence humaine. Et que mon jugement d'existence n'est pas lié à l'existence humaine, mais à ce qui est. Je crois ça capital, hein, de réfléchir là-dessus. La différence qu'il y a entre le document et le fondement de mon jugement d'existence. Parce qu'alors, vous pouvez vous demander, qu'est-ce que le document peut me faire découvrir ? L'action humaine, pas autre chose, pas l'action divine, l'action humaine de telle époque. Donc l'histoire reste humaine, enfermée dans le document, et ne dépasse pas le point de vue de l'activité humaine de telle époque. Mon jugement d'existence porte sur ce qui est, et donc porte sur la réalité elle-même. Et non plus sur l'activité humaine. C'est tout simple, ça. Tout le monde peut comprendre ça, hein. Et c'est très important, parce que par votre jugement d'existence, vous pouvez remonter à l'être premier. Par votre document, vous ne remontez pas à l'homme premier, vous remontez au premier homme. Au premier homme de cette géographie, de cette histoire, la trace humaine, la première trace humaine. Ne remontez pas à Dieu. Bon, ceci me permet de comprendre qu'il n'y a pas de jugement de sagesse historique. Ce qui est capital à comprendre. Voyez, si vous avez des difficultés, écrivez-les. Hein. Parce que ce que je dis, là, c'est très important d'avoir quelque chose de très net là-dessus. Toute connaissance qui repose sur les documents ne peuvent pas me faire découvrir autre chose que l'humain. Je pars de l'humain et je trouve l'humain au terme. Ce qui est peu me faire découvrir ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Comparez ça comme ça. Et je crois que là, il faut être très strict. Il faut vouloir vraiment aller jusqu'au bout. Ma métaphysique commence par ce qui est. Ce qui est de diverses façons, mais c'est toujours ce qui est. Ce qui est saisi par le toucher, ce qui est saisi par l'œil, ce qui est saisi par l'ouïe, ça fait cinq sens. Et vos cinq sens vous permettent cinq modalités du jugement d'existence. Vous avez cinq modalités. Combien de modalités avez-vous du jugement historique ? Puisque le document peut être un pot cassé, c'est un document. Vous trouvez 5 mètres de profondeur. Une écuelle cassée. C'est un document. Vous découvrez à Jérusalem, qui était un excellent archéologue, et on parlait beaucoup d'archéologie en déco. Jusqu'où cette connaissance venait. Les documents sont infiniment variés. Tout, d'une certaine manière, tout ce que l'homme peut faire, tout ce que l'homme a fait, fait beaucoup depuis qu'il existe, sert de document. Votre feuille de papier sur laquelle vous écrivez maintenant, c'est un document. Si vous gardez ça soigneusement après votre mort, bien sûr. Générations. Alors, quand il y aura 10 générations, votre papier prendra une valeur extraordinaire. C'est curieux, hein ? La valeur d'un document, c'est son ancienneté. C'est pas que son ancienneté. Son ancienneté, c'est aussi ce qu'il signifie, ce qu'il peut signifier. Vous voyez la différence, hein ? Jugement d'existence, point de vue métaphysique, ceci est. Bon. il m'apparaît selon cinq modalités. Tandis qu'il documente toute l'activité humaine. Toute l'activité humaine peut me produire un document. À l'histoire et qui ne peut pas dépasser la connaissance humaine. Ça ne va pas plus loin. Donc, je peux à partir de là conclure que seule la métaphysique peut être sagesse. Que ma connaissance historique reposant, s'appuyant sur des documents, ne peut pas être sagesse. C'est beaucoup ça, hein, comme affirmation. C'est lourd. C'est très lourd comme affirmation. Si j'affirmais ça, je sais pas, sur une place publique, on se ferait. Mais seule la métaphysique peut être sagesse. Mes connaissances historiques ne sont pas sagesse. Elles sont des connaissances pour tel groupe. Plus ou moins historique, plus ou moins ancienne. Mais uniquement ça, aujourd'hui, affirmer ça, aujourd'hui ça, il y a combien de personnes qui vous l'affirmeront ? On m'a dit, je prends un exemple, c'est tout à fait titre d'exemple, que tel prêtre a affirmé qu'il n'y a qu'une seule sagesse, la sagesse historique. Si je vous disais c'est qui, je ne le dis pas, parce que vous seriez très étonnés. Il affirme ça, nettement. Il n'y a pas de sagesse en dehors de l'histoire. Lui. Alors, simplement, j'ai envie que le guerre pour vous. Ah, c'est très bien, ça éclaire, ça m'éclaire énormément sur vous. Sur tout ce que vous dites. Parce qu'en définitive, c'est la sagesse. Donc, vous ne quittez pas l'humain. Et vous acceptez Dieu dans la mesure où il est humain. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils n'acceptent Dieu que comme humain, la source de l'humain. Et dès que c'est plus humain, oh, il n'y a plus de sagesse. Donc je me tais. Vous voyez, je vois exprès, hein. Point de vue critique est très très net. Parce que si on n'est pas très très net dès le point de départ, on ne peut plus l'être après. Revenez toujours sur l'origine d'une connaissance. Est-ce que cette connaissance atteint l'être ? Est-ce que cette connaissance atteint le devenir ? Est-ce que cette connaissance atteint le document ? Point de départ. Si tout document est lié à l'action humaine, ce que je crois, une racine, la découverte d'une racine, c'est pas un document ? On peut découvrir une racine extraordinaire. Très étonnante, très profonde, c'est pas un document. Pour que ce soit document, il faut qu'il y ait trace humaine. peut dire ça. Pour qu'il y ait document, il faut qu'il y ait trace humaine. Et donc, le document peut me faire découvrir tout l'humain. Tout ce qui est humain peut être découvert à partir d'une documentation historique. Mais ne peut pas remonter jusqu'à Dieu. Seul la connaissance de l'être peut remonter jusqu'à Dieu. Vous voyez, c'est l'encyclique du pape. Ça. Si on sait la lire, c'est l'encyclique du pape. La métaphysique me permet seule, à mon intelligence humaine, de remonter jusqu'à Dieu. Je m'en déguise. N'importe quel point de vue qui va jusqu'à la connaissance de ce qui est me permet de rejoindre Dieu. Aucune autre connaissance me permet de reconnaître Dieu. La connaissance du mouvement, la connaissance des documents, aucune connaissance ne permet connaissance de sagesse, c'est une connaissance qui se fait à partir de l'être premier. C'est le problème de la connaissance de sagesse. C'est dans la lumière de l'être premier que l'on peut dire ceci. Dans la lumière de l'être il faut la connaissance de cet être premier. Et cet être premier est justement atteint métaphysiquement, directement par ce qui est. En tant qu'il est, le crapaud, vous ne saisissez pas l'être à partir du crapaud, vous saisissez un certain devenir animal. Et ce devenir animal, en le regardant bien, vous dites, il est. Et c'est vrai, le crapaud existe. Mais le crapaud comme crapaud ne me fait pas découvrir Dieu. Mais le crapaud en tant qu'il est, peut me faire découvrir.